L'orchestre de chambre de Prague pour accompagner Karel Kozarek au piano dans le premier mouvement du concerto pour piano et orchestre en do majeur de Franz Xaver Dušek. Bazar sur RTS Espace 2 et l'opéra en fin de journée se traduit par un passage à l'acte sur le coup des 18h dans cette émission. Cette semaine, nous sommes dans l'opéra comique Béatrice et Bénédicte d'Hector Berlioz, dernière œuvre d'un compositeur français mal aimé du public de son pays.
Bazar. Passage à l'acte.
Nous voulons vous commander un opéra.
Un opéra en allemand.
Nous allons faire les choses ainsi. D'abord, évoquer la deuxième et principale histoire d'amour de Berlioz, histoire de nous chauffer le sentimental. Revenir ensuite à l'intrigue de Béatrice et Bénédicte pour nous aligner les chakras et, entre deux extraits musicaux, accompagner Berlioz dans une grimpette pittoresque grâce à ses mémoires ou ses écrits. Alors commençons par cette love story donc. Et si je me permets d'employer l'anglais, ce n'est pas pour donner un air cosmopolite à cette émission, pas du tout, qui diffuse du reste bien assez d'air comme ça, mais bien parce que la dulcinée de Berlioz au début des années 1830 était anglaise. Avant son départ pour la Villa Médicis en 1831, consécutif au prix de Rome qu'il a remporté, le musicien s'était fiancé à une jeune et virtuose pianiste. Mais celle-ci est partie avec le facteur. Et pour une fois, c'est véridique, à la différence près que ce facteur fabriquait des pianos et ne triait pas le courrier. Bref, quelques années auparavant, le 11 septembre 1827 pour être précis, il assiste à une représentation du Hamlet de Shakespeare au théâtre de l'Odéon. Une jeune femme du nom de Harriet Smithson y jouait le rôle d'Ophélia. Le cœur de Totor fit un gros boum-boum. Il avait trouvé un dieu et une muse, Shakespeare et Harriet. On s'abstient de se faire le feuilleton de la rencontre et de la conclusion de l'affaire, c'est particulier. Et une fois revenu de Rome, Berlioz épouse Smithson le 3 octobre 1833. Une année plus tard, ils ont un fils ensemble, Louis. Harriet lui avait inspiré, avant leur mariage, le programme de sa symphonie fantastique, créée en 1830. D'ailleurs, la farouche passion de Berlioz se portait à la fois sur la comédienne et sur la femme. C'est-à-dire qu'il idolâtrait l'une et l'autre ensemble. Il faisait pas très bien la différence entre la personne de scène et la personne à la baraque, qui, quand on rentre le soir et qu'elle est déjà là, elle dit « Salut, comment ça va ?» ou vice-versa. Bref. Quand est-ce que cela foire, cette histoire? Êtes-vous extrêmement impatient de savoir? Bien assez vite, rassurez-vous. Le couple et leur enfant coulent tout de même quelques jours heureux pour la forme dans leur appartement de Montmartre, mais dès 1842, il est fort probable qu'ils se soient éloignés. La barrière de la langue, leur caractère, c'est-à-dire que Berlioz, il fallait se le taper quand même, ainsi que de constamment tirer le diable par la queue, seront autant de coups qui sonneront le glas de leur relation. Et puis, Berlioz avait aussi une petite souris dans le pipeline à ce moment-là, ce qui justifie un peu la chose. Harriet mourut en 1854 des suites d'une maladie qui la paralysa 4 ans durant. À présent, Les Amours de Béatrice et de Bénédicte, opéra comique qui nous occupe dans ce passage à l'acte, ou plutôt les non-amours. Le général Don Pedro annonce à son bras droit, Claudio, que le gouverneur de Messine approuve le mariage de celui-ci avec sa fille, Héro, dans les plus brefs délais. « Youpi !» jubile Claudio, qui ne rêve que de se marier. Don Pedro et Claudio tentent de convaincre Bénédicte, officier célibataire, endurci à la chose, qu'il ferait bien d'en prendre de la graine. Celui-ci rit et préfère se faire moine. S'ensuit une charmante scène bouffonne avec un maître de chapelle parfaitement grotesque que nous passons sous silence pour le moment. Disons juste qu'on y répète un morceau de musique et que le gouverneur, le général et Claudio ourdissent un gentil complot qui jettera Bénédicte dans les bras de Béatrice. C'est un complot sympathique, c'est-à-dire qu'on veut que les gens tombent amoureux. C'est assez mignon. C'est même l'inverse de ce qu'on peut observer la plupart du temps dans ce genre d'œuvre légère. Le sachant dans les parages, ils révèlent à haute voix que Béatrice a confié son amour pour Bénédicte dans le creux de l'oreille de Claudio. Ainsi, Bénédicte a le cœur chaud.
Ah, je vais l'aimer, mon cœur me l'annonce, à son peine en cœur, je sens qu'il renonce. Je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, l'aimer, l'adorer, l'aimer, l'adorer. Béatrice, oh Dieu, le feu de ses yeux, le feu de ses yeux, sa grâce agaçante, son esprit si fin, son charme divin, tout séduit dans l'air et sa lèvre à peine à baiser son vin. Oh, je vais l'aimer. À son vain orgueil, je sens qu'il renonce. Je vais l'admirer, je vais l'adorer, je vais l'admirer, je vais l'adorer, aimer l'adorer, aimer l'adorer, l'idolâtrer. Chère Béatrice, si elle il se pourrait, elle me mettrait au joie, au supplice. Un pareil bonheur est-il pour mon cœur? Si c'était un songe, un cruel mensonge, orage ou fureur. Non, 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 je vais l'aimer. Mon cœur l'annonce. À son vain orgueil, je sens qu'il renonce. Je vais l'adorer, aimer, l'adorer, aimer, l'adorer, l'idolâtrer.
Ah, je vais l'aimer, Jean-Luc Viala en Bénédicte, accompagné par l'orchestre de l'Opéra de Lyon dans cet extrait de l'opéra comique Béatrice et Bénédicte d'Hector Berlioz. Claudio, Don Pedro et Leonato ont donc réussi par la ruse à motiver Bénédicte à se rapprocher de Béatrice. Il se trouve que Héro et Ursule, la dame d'honneur de la fille de Leonato, ces deux femmes, Héro et Ursule, c'est un peu de contre-intuitif comme ça peut-être, Héro et Ursule, ce sont des femmes, et elles ont fait pareil pour Béatrice, c'est-à-dire qu'elles lui ont fait croire que Bénédicte avait révélé son amour au grand jour et qu'il fallait absolument qu'elle lui tombe dans les bras. Succède à ces maigres événements le plus beau numéro de toute l'œuvre, le duo entre Héro et Ursule, Nuit paisible. Berlioz, dans son ouvrage « À travers champs », se souvient du moment de création de la scène. C'est là que je suis parvenu, sur le faîte déchiré du vieux château de Bade, toujours grondant comme une locomotive impatiente. Peu à peu, le calme et l'indifférence m'ont été rendus, en écoutant les voix mystérieuses qui parlent là avec tant d'indifférence et de calme des hommes et des temps qui ne sont plus. L'amour de la musique a semblé lui-même se ranimer en moi, en écoutant les harmonies ineffables des harpes éoliennes placées par quelques charitables allemands dans les anfractuosités des ruines où les vents leur font rendre de si poétiques plaintes. Ces accords vaporeux donnent une idée de l'infini. On ne sait quand ils ne commencent ni quand ils cessent. On croit les entendre encore quand ils ne vibrent plus. Cela éveille de vagues souvenirs de jeunesse enfuie, d'amours éteintes, d'espérances déçues. Et l'on pleure tristement. Si l'on n'est pas trop vieux, alors l'œil reste sec, il se ferme et l'on s'endort. Il paraît qu'on ne doit pas encore me compter parmi les vieux. Je ne me suis pas endormi. Loin de là, après l'averse, le soleil est revenu et j'ai pensé à un petit ouvrage dont je m'occupe en ce moment. Assis sur un créneau, le crayon à la main, je me suis mis à écrire les vers d'une scène de nuit dont je tâcherai ces jours-ci de trouver la musique. Cette musique, Berlioz l'a trouvée et nous l'écoutons.
Thank you.
Héros et Ursule dans le duo Nuit paisible à la fin du premier acte de l'opéra comique Béatrice Bénédicte d'Hector Berlioz. Sylvia McNair et Catherine Robin étaient accompagnées de l'orchestre de l'opéra de Lyon sous la direction de John Nelson. Cette séquence opéra est à écouter tous les soirs à 18h dans Bazar. Bazar sur RTS Espace 2, c'est aussi sur l'application Play RTS. Bonsoir à vous.
Lone Star, where feeling I'm trying to find. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down. How far you are, I just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
La voix de Norah Jones qui fait du bien dans ce Lone Star, composition de Lee Alexander. Le saxophoniste J.D. Allen en quatuor avec ce titre de Charles Strauss, Put on a Happy Face, pour nous dire de sourire. Nous écoutions Franz Schubert, le quatrième de ses six moments musicaux pour piano, interprété par Alexandre Tarot. L'Orchestre symphonique de la radio danoise, sous la direction de Christopher Hogwood, dans une œuvre locale, locale pour le Danemark. celle de Niels Gade, le troisième mouvement de sa sixième symphonie en sol mineur.
Bazar, le best-of.
Chaque lundi à 18h30, je vous propose une courte plongée en apnée dans des écrits de compositeurs. Mais attention, il ne s'agit pas de beaux chapitres immaculés, finis au subjonctif plus que parfait. On va feuilleter des pages cornées, gondolées et qui collent entre elles, because les taches de café et autres fluides. C'est les gros textes de la musique.
Enfin, c'est grotesque.
Ouais, c'est pas faux.
Et alors ?
C'est cela, la littérature.
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
Bien souvent, la lecture de sources historiques nous apprend ce qu'il convient de ne pas faire dans telle branche artistique. Parfois, ça va même un poil plus loin. C'est le cas du pamphlet dénonciateur du compositeur et magistrat vénitien Benedetto Marcello. On est en 1720 et il publie « Il teatro alla moda » qui fustige les mauvaises pratiques dans les métiers de l'opéra de son époque, en donnant des instructions ironiques sur ce qu'il convient de faire pour cartonner dans la branche. Je vous propose ici un panaché de la très longue liste de recommandations que Marcello fait aux « virtuosi », les chanteurs solistes et les cantatrices de l'opéra italien. Le chanteur moderne ne devra jamais avoir fait son solfège, ni chercher à le faire, car il y aurait trop de risques qu'il soit capable de terminer ses notes correctement, ou qu'il chante juste et au bon moment. Il n'est pas nécessaire que le chanteur sache lire ou écrire, qu'il prononce bien les voyelles, qu'il sache exprimer des consonnes simples ou répétées, qu'il comprenne le sens des mots. Mais il faut qu'il confonde le sens, les lettres, les syllabes, etc. pour faire des passages de bon goût, des tris, des appoggiatures et des cadences très longues. La cantatrice moderne, quant à elle, doit commencer à chanter au théâtre avant l'âge de 13 ans, âge auquel elle ne doit pas savoir lire beaucoup non plus. Pour cela, elle doit garder en mémoire certains airs d'opéra, menuets, cantates, et elle ne doit jamais avoir pratiqué le solfège afin de ne pas tomber dans les dangers mentionnés plus haut pour les chanteurs mâles. Elle doit, lorsqu'elle est sollicitée par l'impresario par courrier, ne pas répondre immédiatement et, dans les premières réponses, lui dire qu'elle ne peut pas être résolue aussi rapidement car elle a d'autres demandes, même si ça n'est pas vrai. Une fois décidée, elle exigera toujours la première partie. Si elle ne l'obtient pas, elle acceptera néanmoins la deuxième, la troisième et la quatrième. Et si elle a un oncle, un frère, un père, un mari, musicien, danseur, compositeur, etc., elle exigera qu'il soit également employé. Le chanteur moderne jouera l'action à sa guise, car comme il n'a pas du tout besoin de comprendre le sentiment des mots, il ne doit préparer aucune attitude ni aucun mouvement et entrera toujours en scène du côté par lequel la prima donna entre ou ira en direction de sa loge. Il ne va pratiquement jamais chanter dans une conversation, mais lorsqu'il le fait, il se regardera rapidement dans le miroir, ajustant sa perruque, nettoyant ses manches, soulevant son foulard pour que l'on puisse voir son bouton en diamant. Puis il s'accompagnera sur le clavecin avec insouciance, en chantant de mémoire encore et encore avec toujours plus d'inspiration. Quand cette faveur sera terminée, il discutera, pour recevoir des applaudissements, avec quelques dames, racontant des incidents de voyage, de correspondance, de manœuvres politiques. Il lui offrira du tabac qu'il tirera d'une petite boîte ouvragée où il range un portrait de lui-même. Puis il soupirera au sujet de quelques passions et tâchera toujours de fouetter un groupe de personnes en recoiffant sa perruque. La cantatrice moderne manquera beaucoup de répétitions et enverra sa mère pour s'en excuser. Celle-ci devra dire « Soyez compréhensif, monsieur, la petite a passé une nuit horrible. Elle n'a pas pu fermer l'œil à cause du bruit dans la rue et puis un moustique l'a tenue en éveil jusqu'à très tard. Et lorsqu'enfin elle parvint à s'endormir, elle ne pouvait plus souffler correctement à cause d'une affreuse toux. » Quand elle est présente aux répétitions, elle se doit d'arriver en retard. Elle ne devra pas non plus avoir lu le livret, car elle n'a pas besoin de tout comprendre. Quoi qu'il arrive, lorsque survient la chute, elle n'a qu'à se contenter de rire.
Le samedi, bazar ouvre aussi.
Thank you.
Du Vivaldi entre Enfer et Paradis, nous avons successivement entendu de ce compositeur les deux premiers mouvements d'un concerto pour basson en sol mineur, sous-titré I Demoni, les démons. Le diablotin au basson s'appelle Peter Whelan, il était accompagné de l'ensemble Jupiter, et à l'instant, un numéro du Dixit Dominus d'Antonio Vivaldi toujours, le Dominus ad Dextris Tuis, l'ensemble Nova Musica dirigé par David Bates. Puisque nous entendions de la voix dans ce bazar sur RTS Espace 2, nous allons continuer ainsi avec une voix féminine en particulier dans un lead de Richard Strauss, Efeu. Alors pour la partie vocabulaire, Efeu en allemand, ça signifie lierre. Lierre que l'on vous laisse grimper en haut des cannes. Sabine Devielle, accompagnée par Mathieu Pordois au piano dans Efeu, un lied de Richard Strauss qu'on trouve dans un cahier Mädchenblumen paru en 1891. Le poème est signé Felix Ludwig Julius Dann et évoque d'une manière il faut le dire, excusez-moi, assez peu, 14 juin, la condition de la jeune fille. Bon voilà, ça n'enlève rien au charme de la musique, ni à celui du poème. Nous écoutons maintenant de la musique de jeunesse, d'extrême jeunesse de Félix Mendelssohn, un mouvement de l'une de ses symphonies pour orchestre à cordes, des compositions qui datent de l'époque où il avait 12 ans, c'est-à-dire quand il avait 12 ans. Alors quel intérêt trouve-t-on dans cette musique ? Eh bien celle d'avoir de la musique d'un compositeur déjà très habile pour cet âge-là, excessivement malin, avec déjà beaucoup de goût, mais on reconnaît quand même dans la manière de tourner les motifs, la manière d'exprimer certains sentiments, eh bien les exercices du jeune Félix qui s'exerce au violon ou au clavier. Le pétulant allegro qui ouvre la deuxième symphonie pour cordes de Félix Mendelssohn, interprété par l'orchestre de chambre Dogma, sous la direction à l'archet de Mikhaïl Gourevitch. D'abord Félix, ensuite Fanny Mendelssohn, Ansel de son nom de mariage, deux frères et sœurs liés par la vie, par l'art et par la mort. Écoutez plutôt cette signature qu'on peut trouver dans la correspondance entre la sœur et le frère. C'est elle qui signe « Adieu, n'oublie pas que tu es ma main droite et la prunelle de mes yeux et que sans toi la musique ne peut en aucune façon couler. Ils mourront la même année à quelques mois d'intervalle, elle de maladie, lui de chagrin et d'épuisement. » Nous entendons maintenant la musique de la sœur Fanny, le deuxième mouvement de son trio pour piano, violoncelle et violon en ré mineur.
Thank you.